En fait, le refuge, on est dans une petite cabane confortable, rassurante. Il y a un contraste entre l'hostilité et la chaleur humaine. Enfin, je pense que refuge, c'est un mot qui dit très bien ce que ça évoque et ce que ça fait ressentir, quoi.
Depuis des décennies, les alpinistes qui s'aventurent jusqu'au sommet ont besoin d'un abri pour réaliser leurs expéditions et leurs exploits. D'un lieu qui leur permette de souffler et de reprendre des forces. C'est pour ça qu'ont été créés les refuges de haute montagne. La compagnie des guides de Chamonix en compte 3, tous tenus par des femmes. Ce sont elles que nous allons rencontrer aujourd'hui. À la compagnie des guides de Chamonix, tous les refuges sont tenus par des femmes. Et j'ai rendez-vous avec l'une d'entre elles, Lucie, gardienne du refuge de la Charpoix, 2841 mètres d'altitude. Pourtant, c'est bien au sol qu'elle m'a proposé qu'on se rencontre. Nous sommes à Argentière et je vous emmène à la découverte du rôle primordial des gardiennes de refuge. Oui, Lucie.
Je suis à gauche.
Ah oui.
Okay. Hop. Tac.
Bah enchanté du coup.
Ouais, pareil.
Lucie m'amène quelques kilomètres plus haut sur la drop zone des hélicoptères d'où partent les vivres nécessaires à la vie en refuge.
Oh, c'est joli ici.
Ouais.
Elle ouvre la porte de l'endroit où elle entrepose toutes les denrées en vue de la saison. Une saison qui commence en fait bien avant l'été.
Faut que je fasse le code. On a un box comme ça où on peut mettre notre stock. Hop. Donc je m'appelle Lucie, j'ai 27 ans et je suis gardienne au refuge de la Charpoix depuis l'année dernière, 2024. Donc c'est ma deuxième saison à la Charpoix et c'est ma neuvième saison en refuge. J'ai fait d'autres refuges avant, différents refuges dans le massif du Mont-Blanc. On a ici un box avec les autres gardiens du bassin de la mer de glace où on peut mettre notre stock et stocker quelque chose avant de faire les bagues et de pouvoir monter tout en début de saison. Quoi.
Donc là, c'est un Algeco, il y a un congélateur, il y a des grandes bouteilles de gaz, j'en ai jamais vu des comme
ouais.
Ça.
Donc moi, je peux monter 700 kilos à la Charpoix et je monte ces bagues plus les bouteilles de gaz en début de saison et moi, je redescends pas de la saison. Et donc voilà, je fais mon stock en fonction de ça.
À quelques semaines du coup d'envoi de la saison, la mission principale de Lucie consiste à préparer tout ce qu'elle va devoir monter jusqu'au refuge de la Charpoix et qu'elle mettra dans ce qu'on appelle des bagues héliportées ensuite jusqu'au refuge.
Bon voilà, c'est des grands sacs comme ça, carrés. Là. Hop. Et bon là, il y a beaucoup de choses dedans, mais donc c'est avec ces sacs qu'on monte la nourriture. On en a des exprès pour la nourriture. Dedans, on met des autres bagues vides qui vont nous permettre à descendre les poubelles à la fin de la saison et descendre les bagues de nourriture avec.
Parce que la gestion des déchets, faut en parler aussi.
On a plusieurs manières de faire. Souvent, on a un seau pour les choucas.
Donc,
les choucas, c'est les oiseaux qui sont à cette altitude. Tout ce qui est alimentaire... Comme en bas on ferait un compost, et ben là c'est pour les oiseaux. Ce qui nous permet aussi d'avoir des poubelles sans déchets organiques. Donc voilà, en termes d'odeur, etc., c'est beaucoup plus conservable. On achète beaucoup de choses en vrac, etc. Et on essaye de faire le moins de déchets possible. Et surtout, on demande beaucoup aux gens de descendre leurs déchets. Ça, c'est vraiment une habitude à prendre pour eux. Parce que voilà, le camion passe pas au refuge à la Charpoix. Donc on a besoin que les gens descendent leurs déchets. Ouais.
À quoi il ressemble le refuge de la Charpoix ?
Le refuge de la Charpoix, il est petit. C'est une petite cabane qui fait environ 50 mètres carrés avec 14 places. Il est tout neuf depuis 2023. Il avait 118 ans avant d'être fait. C'est vraiment une cabane emblématique du massif du Mont-Blanc et de l'histoire de l'alpinisme dans la vallée de Chamonix. Et donc c'est une petite maison dans un grand bassin entouré d'immenses aiguilles de granit et de glaciers.
Un cadre de travail hors du commun que Lucie côtoie de juin à septembre. Le reste de l'année, cette titulaire d'un master de géographie officie comme professeur. De quoi se demander d'où lui vient cette vocation.
Lucie, est-ce que tu veux bien nous raconter comment toi tu es devenue gardienne de refuge ?
Moi j'ai grandi au Contamine, donc c'est dans la vallée qui est à côté de Chamonix, dans le Val-Montjoie. Et j'ai eu l'occasion d'aller en refuge en étant plus petite, parce que mes parents allaient pas mal en montagne, etc. Et donc quand j'ai eu l'âge de travailler, j'ai fait une première petite saison en refuge. Et après j'ai eu l'occasion de travailler dans un autre refuge, puis un autre refuge. Et voilà, et puis en fait j'avais envie de faire ça, donc j'ai continué là-dedans.
Une passion chez Lucie largement nourrie par un amour de la nature et de la montagne avec qui elle entretient une relation précieuse.
Je suis touchée par ce que je vois, ce que j'entends. En fait, le refuge, c'est un peu la cabane dans les bois quand on est petit, quoi. On est dans une petite cabane confortable, rassurante. Il y a certains jours, quand il y a un orage, quand il neige... Pour rien au monde, j'aimerais être toute seule dans le bassin de la Charpoise sans le refuge, quoi. Il y a un contraste entre l'hostilité et la chaleur humaine qu'il y a dans le refuge, quoi. Enfin, je pense que refuge, c'est un mot qui dit très bien ce que ça évoque et ce que ça fait ressentir, quoi. Je lis pas mal Saint-Exupéry. Il y a une phrase trop bien, mais alors il faudrait que je la retrouve, qui m'a trop fait penser au refuge. Il dit « Le véritable luxe, c'est celui des relations humaines. » C'est confortable, le refuge à Charpoix, mais bon, voilà, c'est quand même assez rustique. Et donc, j'aime bien le mot « luxe », parce que c'est, dans ces cas-là, la Charpoix, c'est un refuge grand luxe, quoi.
Et parmi les contraintes, est-ce qu'il y a des douches au refuge de la Charpoix ?
Alors, moi, j'ai une douche, mais donc ça, c'est aussi nouveau du nouveau refuge, mais il n'y a pas de douche pour les gens. Je pense qu'il y a pas mal de parallèles à faire entre la vie sur un bateau et dans un refuge. Quand il y a un problème sur un bateau et qu'on est dans une traversée de l'Atlantique, on est obligé de faire avec ce qu'on a, et en refuge, parfois, c'est pareil. Pas toujours, mais...
Est-ce que dans un monde où on vit un peu à mille à l'heure, se poser dans une cabane au milieu de la montagne à 3-4 heures de marche, regarder autour, en quoi ça fait du bien ?
En fait, l'isolement, ça permet un peu de se prendre en otage soi-même, quoi, de se dire... En refuge, les tâches qu'on nous demande tous les jours, c'est des choses très concrètes. Il faut qu'on ait assez d'eau pour faire à manger, pour que les gens puissent se reposer, qu'ils dorment bien, qu'ils mangent bien, pour aller faire leurs courses le lendemain. Et ça, c'est super agréable de guider sa journée par rapport à ça. Et puis de vivre au rythme de ce qu'on a autour de nous, quoi. On est dans un endroit tellement beau, on se lasse jamais, il n'y a pas de couchers de soleil qui sont pareils. Ça, encore une fois, tous les gardiens de la Charpoix me l'ont dit avant que je garde la Charpoix, c'est que c'est un lieu qui est tellement spécial, qui rend personne indifférent. On a beaucoup de solidarité entre les gardiens. Il y a une super entente, on s'appelle super souvent entre nous pour se demander des conseils. Moi, les anciens gardiens de la Charpoix, ils sont géniaux. Si j'ai un problème, je les appelle, ils m'aident. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. On n'est pas seul, en fait.
En effet, quelques kilomètres plus haut, à 3613 mètres d'altitude précisément, d'autres gardiennes s'activent dans ce qui constitue le deuxième refuge gardé le plus haut de France. Posé tel un vaisseau spatial sur le bord d'une arête, en contrebas de l'Aiguille du Midi et du Mont Blanc, il s'agit du refuge des Cosmiques, qui accueille skieurs et alpinistes du monde entier. Il compte trois gardiennes qui se relaient au fil de la saison, et parmi elles, Justine.
Salut ! Je suis gardienne au refuge des Cosmiques avec Isabelle et Anna. Pour moi, c'est tout nouveau, ça fait plusieurs années que je bosse ici. Mes premières années que je prends, on va dire, j'ai plus de responsabilités là-haut. Ces petits changements, ils sont dus au fait que Isabelle attend un bébé qui va arriver d'ici quelques jours ou quelques heures. Donc voilà.
Et donc là, on est dans le refuge des Cosmiques. Il est particulier déjà, il est très décoré, il y a plein de choses, il y a des poutres avec des peintures et une vue incroyable.
Ouais, avec beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup d'éléments qui retracent aussi la vie de tous les gardiens qui sont passés par ici. La semaine dernière, on s'est attaqué au vidage, on a vidé le grenier et qu'on est retombé sur beaucoup de choses qui datent, je pense, des débuts du refuge. Et c'était super cool de pouvoir... voir des affiches de l'époque, retomber sur des photos, des postes radio qui dataient, je pense, voilà, des années 90. Et ouais, je pense que ça fait partie, c'est l'âme aussi du refuge. Toutes les peintures, les petites touches qu'on peut ajouter, nous, au quotidien. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on se fasse un petit tour aussi un peu des lieux. Donc là, on est dans la pièce principale, le réfectoire. C'est un peu le cœur du refuge. Les gens se retrouvent et passent des bons moments.
Oui, table en bois, banc en bois.
Ouais, la classique d'une cabane de montagne. On a de la chance quand même d'avoir un refuge qui est assez luxueux quand même. Il y a d'autres endroits qui sont beaucoup plus rustiques. Donc là, tu as l'entrée du refuge, la salle à matos. Voilà, là, on ne se rend pas bien compte parce qu'il n'y a pas grand monde à cette période. Mais il faut imaginer que d'ici quelques semaines, là, quand il y aura la période des Monts Blancs, les pans complets là, de murs sont remplis de chaussures et on aime bien faire des photos de ça. Quand tout est rangé, c'est cool. Et tu as la petite salle à l'entrée, pareil, qui est remplie de skis pour l'ascension du Mont Blanc par les Trois Monts.
Oui, c'est drôle. En fait, il y a des racks pour expliquer un peu, pour poser les skis, les crampons. Et au-dessus, il y a des bacs. Avec des chaussons.
Des chaussons qui sont même des crocs. Attention.
C'est vrai.
Et en fait, voilà, c'est ça. Voilà. L'idée, c'est que tu vois, ici, tout le monde puisse mettre sa paire de chaussures avec les grosses souffleries en haut qui font voilà, sécher les chaussures. Et puis après, voilà, en fait, chacun arrive, pose ses skis, hisse des choses, il passe à l'accueil et après, c'est parti, ils peuvent faire leur vie dans le refuge.
Ce refuge est emblématique dans la région. En 1930, il prenait la forme d'un chalet construit sous l'impulsion d'un physicien français et tenait alors lieu de laboratoire qui permettait d'observer les rayons cosmiques. D'où son nom, le refuge des cosmiques.
Donc après l'accueil, c'est juste ici.
Après un incendie en 1984, le refuge de Chamonix, la compagnie des guides de Chamonix et le CNRS prend la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Des lignes noires, aériennes, une terrasse panoramique et avec 148 lits, l'un des plus grands de France.
C'est quoi ce cahier ?
Alors le cahier, en fait, ça nous permet d'avoir de la traçabilité sur les gens qui sont venus au refuge. Si jamais il y a un secours ou il y a des informations qu'on a besoin de fournir par la suite, eh ben, on peut justement, on est en mesure de pouvoir donner ces informations. Et à côté, en parallèle, tu as le carnet de retour de course où les gens qui restent plusieurs jours, en fait, se notent un petit peu les conditions qu'ils ont pu trouver, soit dans les voies, dans les goulottes, en ski. Et ça permet de retracer un petit peu toutes les aventures qui se passent là-haut. On essaye d'avoir des retours réguliers pour pouvoir informer les gens. Et c'est vrai qu'il y a une grosse part du travail ici, c'est ça aussi, c'est des gens qui appellent pour prévoir leur course par la suite. La grande question du moment, c'est comment sont les conditions pour le Mont Blanc ? Et on ne sait pas.
Ouais, c'est ça en fait. Vous êtes aussi un espèce de point d'étape pour les gens. Vous êtes un peu un repère aussi. Ça veut dire que vous devez être capable de lire extrêmement bien la montagne aussi, les conditions météo.
Ben pour ça, on est quand même bien épaulé et soutenu. On a Météo France qui nous appelle régulièrement pour faire des points. La Chamoignarde, les clients aussi, les guides. Et il y a un bel échange là-dessus qui est assez intéressant. C'est très formateur même pour nous. Dans notre quotidien. Et oui, on a ce rôle de renseigner et en fait, nous, on y est tous les jours. On a une part de notre boulot, je dirais, qui est assez contemplative aussi. Et ce qui est aussi très chouette.
Mais il y a aussi une part du métier beaucoup plus concrète, comme on peut le constater dans une des pièces les plus importantes du refuge, la cuisine.
Dans la cuisine, on retrouve Colline qui est en train de couper du fromage pour le petit déjeuner.
Donc Colline, toi, tu es, comment on appelle ça, aide-gardienne, c'est ça ?
C'est ça, ouais, aide-gardienne.
Donc ça veut dire qu'ici, c'est à la fois travailler dans un restaurant, faire du service, c'est quoi vos missions ?
Ouais, bah, c'est un peu tout ça, ouais. Restaurer, servir, accueillir. On fait toutes les tâches finalement. Dans ce refuge en particulier, on est vachement polyvalent. Polyvalente, pour le coup.
Alors ça, c'est la sonnerie pour le pain qu'on fait nous, donc il y a des petites sonneries pour nous rappeler qu'il faut lui faire des tours à la pâte avant de le cuire.
C'est-à-dire que le pain a un prénom, c'est ça ?
Le levain.
Pardon.
Le levain s'appelle Félix.
Ok.
Parce que c'était la Saint-Félix quand les filles l'ont récupéré, je crois.
Et est-ce que le fait d'être qu'entre filles, c'est plutôt un atout ?
Eh ben moi, c'est la première fois que je travaille qu'entre nanas et je trouve ça trop bien. Je crois que dans tous les autres endroits où j'ai travaillé, où il y avait des hommes, souvent les tâches un peu plus dures, lourdes, mécaniques, d'entretien, et ben on va faire un appel à un homme. vachement plus vite. Et là, en fait, il n'y a que nous. Donc, en fait, c'est celle qui a envie de le faire qui le fait. Et il n'y a pas ce truc un peu sociétal qu'on peut avoir souvent. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça super agréable.
Accueillir et nourrir des dizaines et des dizaines d'aventuriers et d'aventurières par semaine, des centaines même en haute saison, nécessite de s'organiser, d'anticiper, de communiquer entre les différentes gardiennes, comme ici, entre Anna et Justine.
On est en train de préparer les commandes pour le prochain héliportage. Et en gros, on fait une fois par mois en basse saison et une fois toutes les trois semaines un héliportage. Et du coup, il faut qu'on refasse tout l'inventaire de ce qu'il y a dans le refuge pour faire les stocks et prévoir ce qu'on va commander.
Ok.
Être sûr que ce soit ok pour les livraisons. Être sûr que la météo, ça marche pour l'héliportage, pour que l'hélico puisse voler.
Tout ça, vous vérifiez, vous ?
Oui.
Ok. C'est vraiment beaucoup de polyvalence, ce job de gardienne.
Bon appétit !
Ah, merci.
Une recette qui fonctionne et qui permet ensuite d'offrir de chaleureux repas faits maison.
Oui, oui. Il y a des couteaux, c'était ça.
C'est le coup de feu, là. Là, c'est le coup de feu. On n'est pas beaucoup, donc c'est pas un gros coup de feu. Mais c'est le moment du dîner, ouais.
C'est quoi le menu ?
Alors, soupe poêle cassée. Ensuite, on a du riz avec un petit rougail saucisse. Et en dessert, un gâteau au chocolat banane.
L'occasion, après une journée de travail bien remplie, d'échanger davantage avec Anna, gardienne depuis plus de 3 ans ici, ou plutôt... co-gardienne.
On n'est pas juste gardienne.
C'est important, ça ?
Ah oui, c'est très important. Parce que du coup, on n'est pas toute seule, on est 2, 3 depuis cette année. Et c'est pas pareil que d'être tout seul, ouais. On communique beaucoup plus et chaque décision se prend à plusieurs.
Vous êtes combien en ce moment sur le refuge ?
Alors, en ce moment, au printemps, au refuge, on est 2. Du coup, une gardienne et un aide-gardien, tout le temps. En haute saison, on est sur juin-juillet, principalement, et on peut monter à 5 ou 6 sur place. Un bon gros rôle de management, ouais. D'ailleurs, on a fait un bout de formation en janvier, là, avec la compagnie, avec tous les responsables de pôle. C'était super intéressant. Et ouais, il y a un gros rôle de coordination d'équipe et de gestion de tout ça, que tout fonctionne.
Pour Anna, ce rôle va bien au-delà du simple fait d'assurer l'accueil et la sécurité.
Pour moi, d'être gardienne de refuge, il y a un truc très important, c'est de rendre accessible l'inaccessible. La vraie idée du refuge, c'est d'être dans un endroit isolé et du coup de permettre à des gens de dormir là pour aller plus loin. Ou de juste dormir là et de faire demi-tour, mais d'être allé dans un endroit qui, en fait, pourrait être potentiellement impossible à accéder juste en un jour en aller-retour.
Justement, on est dans un refuge à 3006. C'est un environnement un peu particulier. Est-ce que parfois il y a des situations d'urgence ? On parlait notamment du mal aigu de la montagne, des gens, je sais pas, qui se blessent. Est-ce que ça aussi, tu as été obligé de le gérer ?
Alors oui, on a toujours des soucis de santé ici et des petits cas d'urgence. Il y a 3 ans, l'année où on a repris le refuge, la semaine d'ouverture, le jour de l'ouverture, on a eu une embolie pulmonaire. Comme ça, l'air de rien. C'était un client avec un guide. Il a eu énormément de chance parce que ils dormaient ensemble dans le même dortoir. Et le client, il a beaucoup toussé pendant la nuit, mais en fait, n'importe qui, enfin, personne ne se serait inquiété s'il ne se connaissait pas plus que ça. Et le matin, c'est le guide qui est venu nous voir en nous disant « Mon client, il est bizarre, il a beaucoup toussé, il n'est pas comme d'habitude, il a moins d'énergie. » Mais nous, honnêtement, on ne l'aurait jamais repéré, quoi. Et puis, du coup, c'était Mélanie qui était en charge à ce moment-là. Elle a fait toute la batterie de tests qu'on fait habituellement. Et d'habitude, c'est un truc qu'on fait en premier, de vérifier la saturation en oxygène des gens. Et là, je ne sais pas pourquoi, c'est un des trucs à la fin dernier, elle a fait tout le reste avant. Et en fait, il était à 36, ce qui est absolument impossible. Normalement, on est mort à ce moment-là. Bref, en urgence, on a appelé le PGHM. Et en annonçant ça, ils ont dit, ben là, l'hélico, il vole, on arrive tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ils l'ont mis sous oxygène direct en arrivant et ils l'ont élitreuillé de la terrasse, ce qui n'arrive absolument jamais. Et la mise sous oxygène a été incroyable. Il avait un peu du mal, mais voilà, il était comme ça, tout calme, tout... C'était dur pour nous de dire que vraiment ça allait pas, à part qu'il était un peu mou. Ils l'ont mis sous oxygène et d'un coup, tout son visage s'est éclairé. Ah bah c'est bon, tout va mieux. Voilà, après des mâmes légers, on en a tout le temps, des gens qui vomissent, des gens qui ont mal à la tête, des gens qui... Bon, ça c'est assez régulier, on s'inquiète pas pour autant. En 2023, pareil, on a eu un gros mâme qu'on a mis sous caisson hyper barre. Enfin, tout l'après-midi, ils ont finalement réussi à l'évacuer après 20h.
Vous avez un caisson hyper barre dans le refuge ?
Oui. Oui, oui. C'est pratique. On s'en sert pas souvent et très honnêtement, je pense que c'est pas hyper... Enfin, dans les anciens gardiens, je sais pas combien de fois ils s'en sont servis. Nous, c'est la seule fois où c'est arrivé. Ça nous arrive beaucoup, 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 beaucoup moins souvent qu'au goûter, clairement. Et ça reste des mamas assez légers, mais ça peut arriver que ça parte un peu plus fort. Et après, bah, y a des accidents de montagne tout le temps. Moi, je touche du bois, j'ai eu de la chance, j'ai jamais eu d'accident direct sur mes rotations. Mais y a eu plusieurs décès de gens qui sont passés au refuge et puis qui dévissent ou qui ont une chute de sérac ou n'importe quoi et puis qui décèdent. On côtoie un peu la mort, pas au quotidien, mais régulièrement. Ça fait partie du jeu.
Demain, vous faites quoi ?
Alors, je me lève à 6h, on fait le point. Si tout va bien, tout le monde, je réveille tout le monde et on part pour la des cosmiques. Si c'est pas le cas, on se lève à 7h et on rentrera par le chemin des écoliers.
Parfait.
Véritable métier avec ses contraintes, sa saisonnalité, ses horaires décalés et isolés du monde, le travail de gardien n'en reste pas moins celui de passionné.
Alors, on n'a pas beaucoup d'eau dans le refuge, donc les toilettes sont en toilettes sèches. Il faut bien faire attention de mettre le papier dans la poubelle et pas dans le seau. Pour le petit-déj, c'est un buffet. Donc à 6h, c'est ok, ce sera tout là et vous vous servez. Et puis voilà, vous avez vos lits dans les dortoirs. Et puis voilà.
Merci.
Tentez d'aller dormir. Super.
Merci beaucoup.
Dormez
merci
bien.
Merci pour la
merci
beaucoup.
Et, ouais. Et on se voit demain matin.
Passionné d'humains, de nature, mais surtout de montagne, avec une idée chevillée au corps, celle du partage. Je suis Lola Fourmi et vous venez d'écouter un épisode du podcast Suivez le guide, proposé par la Compagnie des guides de Chamonix, réalisé par César Defort et moi-même, produit par Natif, sous la direction éditoriale de Didier Thiberguin et Daniel Rodriguez. Le montage sonore est réalisé par Damien Talavera.